Le journal Olivier Zano.
Bonjour, partir de Belley et marcher jusqu'au Soustun en 20 étapes, c'est ce que propose Via Berna, un nouvel itinéraire de randonnée. Cette grande traversée du canton est un atout touristique pour la région. On vous dévoile les origines de ce projet dans quelques instants. Rouler à vélo entre Bienne et La Neuville peut être dangereux en ce moment. En cause, les travaux menés sur la 5. Les déviations mises en place sont inconfortables, mais inévitables selon l'Office fédéral des routes. La Suisse joue ce soir son 4e match au Mondial de hockey sur glace. Elle affronte la Slovaquie à 19h20 et vise un sans faute. Mais il faudra être plus efficace qu'hier soir contre le Kazakhstan. Vous l'entendrez tout à l'heure dans notre page sport. Journée radieuse en ce mercredi 18 mai avec des températures estivales, 25 à 28 degrés sur la région. Une chaleur parfois à peine atténuée par la bise. Le mercure restera au perché demain avec quelques risques d'orage toutefois. Plus de 300 km à travers le canton de Berne, c'est la Via Berna. Cette randonnée pédestre XXL prend son départ à Belley et s'achève au col du Soustun. Les 20 étapes ont été inaugurées en avril au niveau cantonal. Dans la région, Jura Bernois Tourisme et le chef de l'arrondissement concerné de Berne-Rando ont tenu à présenter les 5 tronçons qui traversent leur territoire ce matin. Cette grande traversée du canton de Berne est le résultat d'un défi lancé il y a 4 ans par le directeur de Berne-Rando. Les explications de Marc-André Sprunger, chef d'arrondissement Jura Bernois Seeland.
Oui, il avait envie de faire cette randonnée, cette longue randonnée qui couvre tout le canton de Berne, du nord au sud. Et par chance, nous avons pu déterminer Belley comme le départ, ce lieu chargé d'histoire.
Ça, c'était pas gagné au départ, que Belley soit le lieu de départ.
Non, c'était pas gagné d'avance, parce qu'évidemment, pour certains, Belley semble un peu isolé. Mais en fait, pas du tout. Il y a quand même du transport public, l'infrastructure hôtelière est là. C'est un lieu en fait historique et qui est parfait pour le départ d'une Via Berna. Ouais.
Vous avez dû convaincre qui pour y arriver ?
J'ai dû convaincre déjà toute l'équipe de Berne-Rando. Hein. Je suis un peu le seul roman à Berne-Rando. Mais c'est vrai qu'on a une immense chance, c'est que notre direction elle est très ouverte à ce genre de discussion. Et finalement, au bout de quelques discussions, le tour était gagné. Oui.
Un quart des étapes de la Via Berna se trouve dans la partie francophone du canton. De quoi générer des retombées non négligeables, selon le directeur de Jura Bernois Tourisme, Guillaume Davaux.
C'est un plus au niveau de la communication. On est présent sur des plateformes nationales via un itinéraire qui traverse toute notre région. C'est une plus-value d'un point de vue économique. Ça génère des nuitées, ça génère des visites dans les lieux touristiques. Ça génère de la plus-value aussi dans les restaurants de montagne, la nuitée, les restaurants du soir. Donc c'est un vrai plus d'un point de vue économique et communication.
Des propos recueillis par Claire Viget, la Via Berna a obtenu le label européen Leading Quality Trail, garantie de haute qualité. Dans le Jura bernois, en plus du départ de Belley, la Via Berna passe par Tramelan, Montcrozin, La Combe-Grède, Chasseral, les gorges du Taubenlohr, Nau, Macolin et Bienne. La 5 est dangereuse pour les cyclistes. Une centaine d'entre eux ont dénoncé les conditions de trafic actuelles sur l'axe entre Bienne et La Neuville. C'était le week-end dernier. On rappelle que la route est actuellement en plein travaux de réfection et que les voies sont modifiées. Les cyclistes doivent parfois du coup se fondre dans le trafic motorisé. Une situation qui peut être problématique pour les vélos mais qui est inévitable à l'heure actuelle. Olivier Floic, porte-parole de l'Office fédéral des routes à la filiale d'Estavayer-le-Lac.
Il y a une partie où on peut sortir effectivement le trafic cycliste et c'est plutôt sur la partie, je dirais, à l'ouest du tunnel de Ligertz. En revanche, malheureusement, sur la partie est, nous n'avons tout simplement pas de place, il n'y a pas d'alternative à proprement parler et donc nous sommes obligés de partager en fait cet espace commun. Il est clair que, et je crois qu'il faut quand même le rappeler, lorsque l'on met en place un système de gestion provisoire du trafic, tous les partenaires sont autour de la table. En d'autres termes, ce sont des schémas qui sont discutés avec la police cantonale, bien évidemment, pour garantir justement la sécurité de tous les usagers, j'insiste là-dessus, hein. Et puis aussi faire en sorte que les améliorations qui peuvent être faites le sont. Et en d'autres termes, je dirais peut-être qu'on a eu une séance il y a quelques semaines en arrière avec tous les partenaires, y compris, je dirais, l'ATE et puis ProVélo, pour essayer de trouver des solutions. Mais je crois que malheureusement, on est dans une situation qui est difficile parce que arriver à faire converger des points de vue qui sont divergents, c'est-à-dire des demandes divergentes, celles des cyclistes, celles des riverains également, qui sont piétons et qui doivent partager un espace aussi avec des cyclistes, eh bien c'est compliqué. Donc, dirais que quelque part, tout le monde met de la bonne volonté précisément pour trouver une solution qui puisse agréer, je dirais, la majorité, si on veut bien. Mais nous sommes évidemment conscients qu'il n'y a pas de solution miracle. Et ça, je crois que tout le monde doit aussi en être bien conscient.
Et retrouvez l'entretien au complet d'Olivier Floïc sur le sujet sur rjb.ch. Une maturité gymnasiale devrait durer au moins 4 ans à l'avenir. Le Conseil fédéral a mis en consultation aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre une révision de l'ordonnance correspondante. Le gouvernement estime que le système éducatif s'est profondément modifié au cours des deux dernières décennies. Les changements prévus ont pour but de pérenniser la qualité de la maturité gymnasiale. La dette liée au Covid-19 devrait être résorbée d'ici 2031. La Commission des finances du National entend aller plus vite que ce que proposait le Conseil fédéral. La moitié de l'endettement devrait être compensée par les excédents passés du budget ordinaire. Pour rappel, les dépenses extraordinaires importantes liées au Covid ont conduit à un endettement supplémentaire de la Confédération. De 20,3 milliards en 2020, la dette devrait s'élever entre 25 et 30 milliards fin 2022. Et puis la Suisse va soutenir la Banque mondiale à hauteur de 725 millions de dollars. Les moyens dégagés seront notamment utilisés pour aider les pays les plus pauvres face au Covid-19. Plus de transparence et d'échanges lors des prochaines crises à traverser, c'est ce que recommande le Conseil suisse de la science ce mercredi. Le CSS a analysé la façon dont les différents secteurs de notre société avaient travaillé et géré la crise de la pandémie du Covid-19. Si la Suisse s'en est bien tirée en comparaison internationale, des améliorations ont été recensées. Présidente du CSS, Sabine Sustrunk, donne un exemple majeur.
On s'est concentré, bien sûr, un petit peu sur ce qu'on pourrait encore améliorer. Et là, il y a numéro un, clairement, en fait, les données entre les cantons et la Confédération doivent, le flux de données, ça doit s'améliorer. Et là, il faut déjà avoir un système en place avant que la crise commence. En fait, une crise, il faut déjà avoir ce système en place, que les données, le flux de données entre les cantons et la Confédération marche. On ne peut pas mettre un système dans une crise, un système de données en place et s'occuper de la crise. Ça ne va pas, et ça ne va certainement pas pour le petit canton qui envoie des moyens.
Et vous avez remarqué aussi qu'il y avait aussi peut-être une base légale qui manquait pour cela ?
Ça, c'est absolument correct. Donc, il y a vraiment une base légale. En fait, c'est les cantons qui sont responsables des données. Ou quelquefois, même les cantons n'ont pas une loi pour la protection des données ou que justement de donner les données à la Confédération. Et ça, ça doit s'améliorer.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejan-Toulami. En tant que commission extra-parlementaire, le Conseil suisse de la science est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions qui relèvent de la politique, de la formation, de la recherche et de l'innovation. La violence et le harcèlement dans le monde du travail doivent être davantage combattus. Le Conseil fédéral a demandé aujourd'hui au Parlement son feu vert pour ratifier une convention internationale. Le texte prévoit notamment des mesures de prévention et d'aide aux victimes. Tout roule pour La Poste. Le géant jaune a clos le premier trimestre 2022 sur un bénéfice consolidé de 159 millions de francs, en hausse de 68 millions par rapport à la même période de l'année passée. Avec 1749 millions de francs, le chiffre d'affaires est resté relativement stable. Chiffre intéressant, le volume de colis a chuté de 9,6% lors de ce premier trimestre, en cause la levée des mesures Covid qui a certainement atténué le recours au commerce en ligne. Un parapentiste âgé de 30 ans s'est grièvement blessé hier soir près de Stein, dans le canton de Saint-Gall. Le malheureux s'est envolé depuis le sommet du Stockberg. Peu après, son parapente s'est plié d'un côté, selon des témoins. Le trentenaire a alors chuté au sol depuis une hauteur relativement élevée. Il a été héliporté à l'hôpital. La Finlande et la Suède ont soumis ce mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN. Elles mettent ainsi fin à deux siècles de non-alignement. Les consultations sont désormais en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays à l'Alliance transatlantique. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié ce jour d'historique, à un moment critique pour notre sécurité, a-t-il déclaré. Caroline Toussaint, vous revenez sur les principaux enjeux de cette adhésion.
Ça fait à peu près 200 ans que la Finlande et la Suède se tenaient à l'écart des alliances militaires. On parlait alors de non-alignement. Pour la Finlande, c'était en adéquation avec un traité d'amitié signé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous la pression de Moscou. Le texte assurait que la Finlande resterait neutre et en dehors de la coopération transatlantique, comme le résume le Nouvel Obs. La Suède, elle aussi, est restée longtemps neutre, bien qu'elle ait noué des liens avec l'OTAN par le passé. La guerre en Ukraine change donc la donne par sa proximité et par les menaces de Vladimir Poutine. Pour le chef du Kremlin, l'adhésion à l'OTAN de la Finlande serait une erreur. La Finlande qui a dit s'attendre à des actions en représailles de la part de la Russie. Mais la première ministre a assuré samedi que le pays était préparé à différents types d'attaques.
Concrètement, Caroline, l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et la Suède pourrait-elle rebattre les cartes dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine ?
Géographiquement, c'est certain que l'alliance transatlantique ferait une avancée, un peu plus d'emprise au niveau de la mer Baltique et la possibilité de protéger davantage certains pays d'Europe de l'Est. Il y aurait aussi des avantages en matière de ressources, puisque la Finlande possède des réserves de céréales et de carburant, et les deux pays disposent aussi de capacités militaires conséquentes, notamment une artillerie ultramoderne et des milliers de soldats, selon le Blick. En échange, l'OTAN promet aux deux pays la protection militaire et un soutien logistique en cas d'attaque.
Il reste que pour le moment, comme on l'a dit, la Turquie semble s'opposer à l'adhésion des deux pays à l'Alliance. Or, l'unanimité des 30 membres de l'OTAN est impérative pour toute adhésion. Le Kremlin a accusé ce matin l'Ukraine d'absence totale de volonté de négocier avec la Russie pour mettre fin au conflit. La veille, la présidence ukrainienne avait dit que les pourparlers étaient suspendus à cause de la Russie. Les deux parties se renvoient la balle. Et puis le ministre japonais des Affaires étrangères a exhorté aujourd'hui Pékin à jouer un rôle responsable dans cette crise russo-ukrainienne. Il s'agissait du premier entretien avec son homologue chinois depuis 6 mois. Le Japon s'est joint à ses alliés occidentaux pour prendre des sanctions sévères contre la Russie après son invasion de l'Ukraine, tandis que Pékin a refusé de condamner l'agression de Moscou. Enfin, en France, 2 hommes ont été tués la nuit dernière à Marseille, l'un par balle et l'autre par arme blanche, sans lien apparent entre les deux affaires. Les affaires qui semblent liées au trafic de stupéfiants, a-t-on appris de sources policières et du parquet.
Vous écoutez RJB, les midi 28.
Sport. L'équipe de Suisse de hockey sur glace n'a pas vraiment le temps de souffler au championnat du monde. Elle dispute ce soir son 4e match du tournoi en Finlande. À Helsinki, la sélection de Patrick Fischer sera opposée à la Slovaquie à 19h20. Un match qui tombe tout juste 24 heures après le court succès face au Kazakhstan, 3-2. Si la Suisse est toujours invaincue après 3 matchs, elle devra montrer un visage bien différent aujourd'hui, selon l'attaquant Marco Miranda.
Ouais, je pense que c'était quand même un peu un wake-up call pour le match. On sait que ça sera une autre équipe. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut vraiment qu'on joue plus comme le premier des matchs et qu'on joue notre jeu. Sinon, ça va être encore plus compliqué.
Retrouver cette intensité de l'équipe de Suisse.
Exactement, c'est notre jeu. À la fin, on veut jouer vite, intense, on veut finir les checks, pas trop compliqué. Quand on fait ça, on est vraiment bien. Si on essaye parfois de faire des autres trucs, ouais, ça peut être compliqué.
Marco Miranda au micro de notre envoyé spécial au Mondial de hockey sur glace, Raphaël Chalvera. Suisse-Slovaquie, c'est à 19h20. Le choc du groupe B entre la Finlande et la Suède se jouera à la même heure. Et cet après-midi, la France affronte l'Italie à 15h20, alors que la Norvège défie l'Autriche. Cette nouvelle cocasse pour terminer, le cycliste érythréen Binyam Girmay est contraint d'abandonner le Giro, victime de son succès. Le jeune coureur de 22 ans a en effet été blessé à l'œil gauche hier en fêtant sa victoire dans la 10e étape de l'épreuve italienne. Il a malencontreusement reçu le bouchon de la bouteille géante de Prosecco qu'il devait ouvrir sur le podium. Merci de votre écoute. Prochaines infos à 13h. Belle journée.